À voix nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Jean Lebrun. Ce soir, le pari sur l'éducation.
Pour évoquer avec nous votre parcours et vos souvenirs, vous nous avez ouvert les portes de votre appartement parisien. C'est là que vous vivez, à l'abri des regards, entouré de vos milliers de livres et de vos souvenirs. Alors sans tout dévoiler, je peux dire que vous êtes né en 1950 à Saint-Malo, et après une agrégation d'histoire à la Sorbonne, vous devenez enseignant au lycée Paul-Éluard à Saint-Denis. Journaliste de presse écrite pour Combat, La Croix, Esprit, vous devenez ensuite un homme de radio. Sur France Culture, vous produisez les émissions Culture Matin, Pot-au-feu, Travaux publics, sur les docks, avant de poursuivre votre route à France Inter, où vous animez chaque jour depuis 2011 la marche de l'histoire. Artisan exigeant, conteur et confident, vous passez la plupart de votre temps, Jean Lebrun, à diriger votre micro vers ces visages inconnus, à écouter ces vies en retrait qui se dévoilent à vous, sans jamais transiger sur le contenu. Des personnages qui apparaissent, des lieux qui restent et des histoires qui nous bousculent. Votre intention est d'écouter ce que l'on n'entend jamais assez. Bonsoir Jean Lebrun. Quand on est face à un homme comme vous, on se demande quel enfant vous étiez.
Alors c'est difficile de raconter son enfance, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres ? Parce que c'est d'une grande banalité, et pourquoi se mettre en avant ? J'appartiens au plus profond de l'anonymat, vous voyez ? Déjà le nom de Lebrun, il n'y a pas de quoi être extrêmement fier. Enfin, bon, c'est un nom que moi je croyais le plus commun de tous les noms. Alors j'ai appris depuis qu'il y avait Lefebvre et puis bien d'autres qui étaient davantage représentés que Lebrun dans la nomenclature française. Mais enfin, vous m'avouerez que c'est pas extraordinaire. Bedeau, c'est pas mal, c'est un peu mieux en tout cas que Lebrun. Bon. Et en plus, ce nom, on n'y était pas vraiment attaché. C'est le nom de mon père, bien sûr. Et dans la famille de mon père, il y avait des domestiques. Et je me souviens de photos d'un des aïeux qui avait abandonné son nom et puis abandonné son costume. Et il était habillé tout pareil que le maître. Et on lui aurait demandé de s'appeler Leroux. Il aurait accepté d'être Leroux. Moi, je suis un enfant de dominé. Simplement, la question est de savoir comment on émerge de cette domination. Alors, je crois que j'ai eu une chance, c'est d'avoir des parents pleins de contradictions. Alors, mon père était jardinier, il lui est arrivé d'être ouvrier avant la guerre, dans la fin des années 30. Ma mère était femme de ménage, concierge. Mais au bout d'un moment, mes parents se sont installés à Épinay-sur-Seine. Et ils étaient petits, très petits fonctionnaires territoriaux. Enfin, à l'époque, la fonction publique territoriale n'existait pas, ils n'avaient pas vraiment de statut. Et ils avaient en eux une contradiction extrêmement difficile à porter, parce qu'ils avaient conscience d'appartenir au monde ouvrier. Tout simplement, ils étaient des ouvriers qui n'étaient pas de gauche. Il y a beaucoup d'ouvriers qui n'appartenaient pas à la gauche, beaucoup d'ouvriers qui ne votaient pas communistes. Le parti communiste qui se prétendait le représentant de la classe ouvrière, il représentait peut-être la moitié de la classe ouvrière, et puis le parti socialiste, une part significative. Mais mes parents n'étaient même pas socialistes, ils étaient démocrates chrétiens, c'est-à-dire que dès l'avant-guerre, ils avaient été formés en Bretagne, du côté de Saint-Malo, dans les petits groupes pionniers de la démocratie chrétienne, qui essayait de se libérer du catholicisme conservateur, post-royaliste, du monde des grands propriétaires, et qui se voulait solidaire des petits agriculteurs, des paysans en difficulté. Alors mon père avait été antifasciste, parce que beaucoup de démocrates chrétiens l'ont été avant la guerre. Donc il était antifasciste, mais ils étaient en même temps viscéralement anti-communiste et même anti-socialiste. Alors ça donnait à la vie de la maison une coloration intensément politique. Mais comment dire, la politique, ça avait pour nous des conséquences immédiate, extrêmement pratique. D'abord le salaire, est-ce qu'on allait pouvoir acheter une autre viande que la viande de cheval, manger autre chose le jeudi que les artichauts et le vendredi que la galette. Et puis comme mes parents municipaux étaient logés par la ville d'Épinay-sur-Seine, que la ville était de gauche, qu'ils étaient mal vus par la municipalité, selon le résultat des élections, les coalitions qui allaient se mettre en place dans la ville, est-ce qu'on aurait une salle de bain? Ou est-ce qu'on continuerait à se laver dans la cuisine? Alors, j'ai été sensible à toutes ces questions dès mon enfance. Donc, c'est une enfance politique, mais d'une manière inattendue.
Alors, il y a vos parents, puis il y a aussi votre sœur aînée, votre référente en quelque sorte, qui se charge un peu, on peut dire, de votre éducation, qui vous apporte un peu l'air extérieur.
Involontairement, elle m'apporte l'extérieur, oui. Parce que ma sœur avait fait des études bien avant moi, parce que mes parents, surtout ma mère, étaient évidemment décidés à ce que l'émancipation des enfants passe par les études, et puis elle était abonnée, elle était assistante sociale, surintendante d'usine, comme on disait, d'un terme absolument exquis. Elle était abonnée à des revues, la revue de l'ambassade des États-Unis, ça devait être gratuit, sélection du Reader's Digest. Enfin, vous imaginez, vous avez les petites publications quinzomadaires avec l'homme le plus extraordinaire, la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée, j'ai baigné là-dedans. Elle était abonnée à Connaissance des Arts, c'est-à-dire que j'ai appris la grammaire des styles, comme ça, par cette publication de luxe qui montrait des choses absolument inaccessibles. Et puis, assistante sociale, elle a aussi beaucoup passé de temps en Afrique, et au temps des indépendances de l'Afrique, et c'était l'ouverture en effet vers l'étranger. Quand elle rentrait, immense excitation de ma part, soirée diapositive pour tous les voisins, récit de l'indépendance de la République centrafricaine, apport de timbres multicolores qui se joignaient à ma collection, et c'est vrai que ça a eu beaucoup d'importance.
Votre sœur qui se rêvait médecin, mais qui, par faute de moyens, est devenue assistante sociale.
On n'a pas les moyens de payer les études de deux enfants de rang. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis né, qu'il fallait que moi aussi j'ai droit à des études supérieures, ma sœur a renoncé à des études longues et a préféré faire des études plus courtes. Donc j'ai beaucoup de dettes, beaucoup de reconnaissance à avoir et pour mes parents, ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils ne pouvaient pas me donner. Je suis aussi reconnaissant pour ce qu'ils ne pouvaient pas me donner et pareillement pour ma sœur. Et je tiens beaucoup à cette fidélité. Fidélité sans esprit revanchard, vous voyez. Je n'ai jamais été jaloux du bien des autres. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents n'affectaient pas la lutte des classes, ne parlaient pas le langage de la lutte des classes. Et je crois que mon père, en particulier, il avait, sans savoir d'où ça venait, fait sienne la formule de Dostoïevski. Ne pas détester les riches et aimer les pauvres. Mais j'insiste sur ne pas détester les riches. Mais il est arrivé à mes parents avant la guerre, quand mon père n'était pas ouvrier dans une usine, de servir dans des maisons bourgeoises, comme on disait. Et dans les mois qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, Dieu sait si j'ai entendu ça pendant mon enfance, il travaillait à Senlis dans un château. La propriétaire était une membre de la famille Deleuze qui avait redoré le blason de la famille Deleuze, qui n'est pas vraiment ébréché ni abîmé, mais en épousant un riche juif qui s'appelait Monsieur Kulp. Et mes parents étaient humiliés constamment par Monsieur et Madame Kulp, et surtout par Madame Kulp. Et quand a eu lieu la mobilisation en 39, c'est mon père qui m'a raconté ça spontanément, comme une sorte de péché, comme quelque chose de honteux dont il fallait que je me souvienne et il ne fallait pas que je reproduise son comportement. Il a pris entre quatre yeux Monsieur Kulp, qui lui aussi était mobilisé, les voilà enfin qui étaient à égalité. Et il lui a dit, Monsieur Kulp, j'espère que Hitler arrivera au pouvoir pour que, enfin, le vôtre cesse. C'est-à-dire que il avait été tellement abaissé qu'il en avait oublié son passé démocrate chrétien, il en avait oublié la lutte, et il s'en est voulu, vraiment, toute sa vie de cette formule. Moi, je n'ai jamais entendu dénoncer à la maison nulle personne parce qu'elle était fortunée, et surtout pas un juif parce qu'il était fortuné. Aimer les humbles, ne pas détester les riches. Moi, j'essaye de garder cette fidélité, de vivre au plus près, non pas des gens modestes, mais de vivre au plus près de la moyenne française, dans une sorte de retenue. Bon, vous me parlez de mon appartement, il fait 45 mètres carrés, c'est l'appartement d'une vieille tante, dont le papa était garde républicain, il s'était installé depuis Saint-Malo d'où il venait, à côté de la gare Montparnasse. Il y avait là le portrait du papa en garde républicain, le portrait de la maman en vieille bretonne, en coiffe de dentelle et en robe noire, et je les sens encore là, et j'ai pas l'impression d'avoir trahi ce qu'ils étaient et de m'être envolé dans la stratosphère.
Comment l'histoire est venue à vous, Jean Lebrun ? Par des récits d'histoire des hommes, à travers le récit des lieux ?
Alors, il y avait le livre de la collection Malé-Isaac de ma sœur. J'étais tout le temps malade. Maladie feinte ou maladie réelle, je ne sais pas, j'aimais bien être malade. La tisane, le soir, écouter la radio dans l'après-midi, lire avec une lampe de poche sous la couverture jusqu'à pas d'heure. Alors je lisais le Malé-Isaac, c'était très triste le Malé-Isaac, si on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, tout gris, avec des petites vignettes, mais je lisais ça avec la plus extrême passion. Et puis je crois que j'ai toujours eu le sentiment, alors que je n'essaie de rien, enfin, que j'avais un nom extrêmement commun, j'avais l'impression que je ne naissais pas de moi-même, que je naissais de quelque chose qui venait de très loin. Je passais l'été dans une ferme à côté de Saint-Malo, à Saint-Coulon, et un des champs de la ferme donnait sur les ruines d'un château de Duguesclin. Et alors ma cousine, qui m'accueillait là l'été, disait toujours à son mari, qui était un peu bas de plafond, « Attention, hein, y a les vieilles pierres, là, t'y touches pas, Ernest !» Et donc moi, je regardais ce tas de ruines, et je me disais, ça doit être quand même très important, parce qu'il faut pas y toucher. Et puis ça appartenait à Duguesclin, qui était Duguesclin. Alors je cherchais, je trouvais qui était Duguesclin. Et il se trouve que ma mère était concierge d'un bâtiment municipal qui était en fait un vieux château. Mais un château complètement délabré, un château que la municipalité géométrique et socialiste d'Épinay laissait complètement à l'abandon. Et le cèdre du Liban qu'on voyait à travers les fenêtres de la grande salle avec des colonnes, un décor ionique, du faux marbre, de grandes perspectives, des glaces. J'avais l'impression, je faisais tout un roman autour de ce château, il n'y a que moi qui en voyait si fortement la structure passer. J'avais l'impression que j'étais un gentilhomme qui était reçu, là je me déguisais en noble, qui était reçu dans la grande salle du château. Puis il y avait le grenier aussi, alors le grenier était plein de mystères, de vieux papiers, de vieux billets, enfin comme tout grenier, mais il était absolument immense et il était à ma disposition pleine et entière. Donc j'étais un fils de prolo, mais vivant dans un espace immense qui était une sorte d'immense ouvroir d'histoire potentielle que je me racontais à ma façon.
Et puis une vie de château pleine de contrastes aussi. Le château accueille une grosse vie politique.
Oui, les réunions politiques à Épinay avaient toujours lieu là. Alors, il y avait tout, là. Il y avait la fanfare municipale qui vous empêchait de dormir le jeudi soir. Il y avait le cours de danse. La loge était à une extrémité de la grande salle, et puis nos appartements, misérables, sans toilette, avec des poêles à mazout, la peinture qui s'écaillait, une circulation, avenue de l'Atte de Tassigny, absolument assourdissante. Mais enfin, moi, en robe de chambre, le soir, je traversais la grande salle. Alors, il y avait des cours de danse, et des jeunes filles. Bon, alors, je pense que ça m'émouvait beaucoup. Mais il y avait surtout, le soir, les réunions politiques. Alors j'ai vu tous les personnages de la Ve République défiler, puis alors les réunions politiques d'autrefois, il fallait être prêt à tout, ça n'avait strictement rien à voir évidemment avec les meetings organisés d'aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé ça. Et la même salle servait pour les votes, et mon père, en tant qu'employé de la municipalité, tenait le bureau de vote, je me tenais à ses côtés là, toute la journée, toute la soirée, je regardais de près le nez au-dessus de la table, les scrutateurs, guettant les méchants communistes dont mes parents m'avaient dit « Attention, avec leurs alliances, leurs bagues, ils vont déchirer les nos bulletins de vote ou bien les tâcher », alors que ça me passionnait, quoi.
Alors vous êtes, comme vous disiez tout à l'heure, fils de gardienne, de démocrate chrétien, et vous grandissez dans cette famille ouvrière, mais vous vous retrouvez quand même à étudier dans ce collège catholique Notre-Dame à Enghien-les-Bains.
C'est-à-dire la commune voisine. Mais comment vous dire, d'abord de l'incompréhension, parce que ce collège, on est à l'époque conciliaire, au meilleur moment peut-être du catholicisme français, au moment où le catholicisme français respecte le plus les valeurs d'égalité. Alors les bons pères, catholiques sociaux, nous engueulaient tous parce qu'on était bourgeois. Et alors moi je comprenais pas pourquoi on m'engueulait, j'étais pas bourgeois. Je voyais vraiment pas pourquoi on me faisait ce reproche. Alors donc il y avait cette surprise, et en même temps une secrète satisfaction en disant mais alors si c'est tous les petits copains là, c'est des bourgeois, des profiteurs et qui sont voués aux gémonies parce qu'il est plus riche, il est plus difficile à un riche d'accéder au paradis qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille, moi j'ai plus de chance que... Enfin, moi, je l'ai vécu hein, vraiment comme une chance de venir des milieux populaires et de ne pas être comme mes petits camarades.
Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir souffert de cet inconfort social ?
Non.
C'est entre deux, justement ?
Non. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre la sociologie bourdieusienne qui, fondée sur l'expérience de Pierre Bourdieu lui-même, qui se décrit en petites choses dans les cours de récréation des lycées où il entrait simplement du bout des pieds à Pau, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça.
Alors votre enfance, c'est aussi une enfance catholique, à la paroisse bretonne où tout le village se retrouve le dimanche ?
Ben ça c'est et c'est pareil à Épinay-sur-Seine. On avait des cartes qui permettaient de vérifier si on avait été à la messe ou pas, avec des petits tampons. Alors on allait se confesser, mais ça n'empêchait pas la liberté. C'est très difficile à expliquer aujourd'hui. La contrainte peut être surmontée par une liberté intérieure.
Mais c'est aussi, c'est-à-dire que c'est aussi à une période où les paysans vont à la messe le dimanche, ils vont pas à la plage, donc c'est aussi une manière de se retrouver.
Oui, bien sûr, oui, c'était une manière de faire communauté et c'était préparé très très précisément. Le paysan se rase, le paysan nettoie sa voiture, tout le monde monte dans la voiture, le paysan assiste au début de la messe et puis après se met vers le fond et puis du fond il passe à la sortie et de la sortie il passe au café, et puis tout le monde va se retrouver ensuite à l'épicerie où il faut à peu près une heure parce qu'on achète tout au détail et que rien n'est conditionné pour sortir avec ce qu'on a voulu acheter. Et puis ici, on peut prolonger un peu avec la séance du cinéma de patronage le dimanche après-midi, on n'en est pas mécontent et le recteur vous demande d'aller à Vêpres, vous y allez ou vous n'y allez pas.
Qu'est-ce qui vous guidera vers des études d'histoire à la Sorbonne plutôt que le journalisme ou le théâtre qui vous passionne déjà au lycée ?
Il n'y a rien de plus beau pour mes parents que la Sorbonne. Pour quelqu'un de milieu populaire, il y avait Saint-Cyr, alors il voulait me faire Saint-Cyr. Saint-Cyr et la Sorbonne, il ne connaissait pas autre chose. Et alors pour dire de quelque chose que c'est difficile, on disait... Oh là là, c'est comme à Saint-Cyr. Pour dire de quelque chose que c'est merveilleux, que c'est une sorte de paradis inaccessible, qu'il n'y a rien de tel dans le monde, que c'est absolument incomparable, on disait la Sorbonne. Je suis arrivé à la Sorbonne, au plus haut de l'école historique française, avec des professeurs qui, presque tous, étaient exceptionnels. Alors il y avait des professeurs chaleureux, généreux, Henri Maroux par exemple, qui était un peu asthmatique, qui parlait avec difficulté, qui tendait le cou. Il fallait nous-mêmes qu'on tende le cou pour l'entendre, mais il était d'une telle générosité qu'il vous donnait les examens presque à tous. Enfin, tellement content qu'on soit là à écouter ses cours d'histoire de l'Antiquité tardive. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus restrictifs. Alors, le maître qui m'a le plus influencé, c'est Alphonse Dupron. Et alors, lui, il nous trouvait trop nombreux. Donc, les premiers cours consistaient à dicter une chronologie absolument insipide. Et une fois que on avait été découragé et qu'il ne restait plus que le tiers des candidats, il commençait ses cours et alors il employait des mots qu'on ne comprenait absolument pas, qui n'appartenaient qu'à lui. Il avait un vocabulaire ondoyant, cryptique. Et là, il restait plus que 10 ou 12 personnes et c'était un séminaire et sa satisfaction était totale. Et moi, j'ai toujours considéré l'histoire comme fédératrice pour d'autres disciplines. J'ai toujours fait beaucoup de sociologie, un peu de géographie, pas assez, beaucoup de théologie et d'histoire religieuse, un peu d'économie. C'était, pour moi, c'était un fait social total, l'histoire à la Sorbonne.
Vous m'aviez dit que, quand vous parliez d'Alphonse Dupron, vous disiez qu'Alphonse Dupron et Braudel n'avaient pas la même conception de la durée. Je trouvais ça intéressant. Pour Alphonse Dupron, c'est l'idée que le passé est latent, qu'il a encore une puissance.
Alors Braudel, chacun le sait parce que c'est devenu une sorte de catéchisme. C'est l'histoire dans la longue durée, les cycles économiques longs, l'étude des continuités. C'est autre chose, Dupron. C'est plus surprenant, plus imprévisible. C'est l'idée que rien ne meurt, que les choses mettent beaucoup de temps à mourir. Et que rien ne naît facilement, et que les choses mettent beaucoup de temps à naître. L'historien, c'est celui qui attend ce qui va advenir, en étant prévenu que ce qui est advenu peut revenir, et qui ne s'étonne donc pas de la combinaison de l'ancien et du nouveau, mais qui sait aussi d'expérience que la combinaison ne se reproduit pas telle qu'elle s'est déjà produite. Il n'y a pas d'histoire qui bégaye, ni d'histoire qui se répète. Alors,
Il y a la puissance du passé, mais également celle du devenir.
Oui, il y a la latence du passé et l'attente du devenir.
Vous avez consacré votre mémoire de maîtrise à la trappe. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous découvrez ce lieu ?
La trappe, ça a été extrêmement important pour moi parce que c'est une sorte de, pas de vie rêvée ni de vie idéale, mais c'est un modèle de vie chrétienne que je concevais comme un lieu de réparation pour toutes les misères, toutes les erreurs, tous les scandales du monde. C'est toujours extrêmement rassurant pour moi de penser que les trappistes, ceux que j'allais voir, ils sont dans l'Orne, à Soligny, vieillissent en même temps que moi. Il n'en reste plus beaucoup de ceux que j'ai connus il y a 40 ans. Ils n'ont cessé de prier pour moi et pour tous les hommes et pour toutes les femmes de la terre. C'est comme un barrage, vous voyez, un lieu de retenue qui fait monter les eaux. Et c'est extrêmement rassurant de savoir que ce barrage vous protège. En même temps, au bout d'un moment, le réformateur de la trappe, l'abbé de Rancé, qui a beaucoup fasciné les hommes du grand siècle, jusqu'à Chateaubriand, qui lui a consacré son dernier livre et sur lequel je travaillais, mais paru complètement insupportable, avec ses formules répétitives, son esthétique de la punition. Et puis, un moment, je suis tombé par hasard sur un aspect encore plus désagréable de la trappe. La trappe, pour obtenir la reconnaissance du Second Empire et sceller l'alliance du trône et de l'autel, avait créé une colonie pénitentiaire destinée à former les jeunes gens perdus, délinquants, vagabonds, abandonnés. Il y avait 30 ou 40 000 enfants abandonnés au milieu du 19e chaque année en France. Les remettre sur le droit chemin et faire d'eux des petits soldats ou des artisans ou le plus souvent des ouvriers agricoles. Alors, quelle terrible contradiction. Comment les deux vocations sont-elles conciliables? Comme disait un trappiste adversaire de la colonie pénitentiaire, il faut donc qu'on passe un diplôme de geôlier pour pouvoir devenir un bon moine.
Qu'est-ce qui vous a éloigné de la trappe, Jean Lebrun?
Je faisais une exposition sur l'iconographie de la trappe. Et pendant que cette exposition a eu lieu, j'ai eu une crise d'appendicite. J'étais opéré dans un petit hôpital à Mortagne, au Perche, à côté de la Trappe, où le médecin, fort talentueux, est venu me voir en me disant « Mais c'est embêtant, monsieur, parce que vous avez aussi une tumeur. » Alors, une petite tumeur, vous voyez, un truc
bénin.
C'est pas nécessairement grave. Mais enfin, quand vous avez 22 ans, vous vous dites « Mais c'est quand même un peu absurde, la vie que j'ai menée jusque-là. » C'est-à-dire que le personnage de Rancé commençait à m'agacer, qui disait qu'il fallait s'abstraire du monde, qu'il fallait renoncer, qu'il fallait souffrir, qu'il fallait apprendre à mourir, qu'il fallait mourir jeune. Alors, à 22 ans, je me suis dit « Bon, ça va. » Et donc, j'ai jeté ma gourme et j'ai décidé de vivre plus joyeusement,
enfin,
de me livrer à mes désirs. Disons que j'ai renoncé au vœu que je n'avais pas prononcé de chasteté, vous voyez. Mais je retourne à la trappe régulièrement depuis.
Merci Jean-Lebrun. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Jean Lebrun. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.